48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et bien le bonjour à toutes et à tous, un 14e mag de 48 FM aujourd'hui avec toujours trois invités et Nico qui va nous accompagner comme modérateur aujourd'hui. Bonjour Nico.
Bonjour.
Alors aujourd'hui nous allons parler environnement, agropastoralisme et également tourisme avec Jean-Paul Pourquier, président de l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes au sujet de l'obtention de l'inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Monsieur Pourquier, bonjour.
Oui, bonjour.
Comme chaque mardi, une page culture avec aujourd'hui Thierry Arnal du Théâtre de la Mauvaise Tête avec des déambulations peinturlurées ce vendredi. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et enfin notre troisième invité qui n'est pas encore là, il va arriver aux alentours de 13h. Il s'agit de Stéphane Sora, l'entraîneur de l'Avenir Foot Lozère. Il s'échauffe exactement, qui viendra évoquer le parcours exceptionnel de son équipe en championnat et bien évidemment en Coupe de France. Alors le 28 juin 2011, le comité du patrimoine mondial a inscrit les Causses et les Cévennes au titre des paysages culturels de l'agropastoralisme méditerranéen sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'était une démarche qui a été entamée bien en amont. Jean-Paul Pourquier, vous pouvez nous rappeler peut-être les dates importantes de cette démarche pour cette inscription ?
Oui, alors je vais rester sur les dates les plus récentes, la période la plus récente, 2005-2012, puisque ce dossier avait déjà été porté bien avant par le président Champuche, président du Conseil général de l'Aveyron. Mais donc en 2005, premier dépôt devant l'UNESCO à Vilnius, bon, qui a été ajourné, qui est revenu en 2011 à Séville pour un complément, en tout cas une demande complémentaire, et qui s'est basé là justement sur l'agropastoralisme comme étant l'élément fédérateur, l'élément clé pour ce dossier et donc son aboutissement en 2012 à Paris. Voilà, donc trois présentations pour finir en 2012 à Paris avec un portage très fort de l'association dite AVEC, hein, qui était présidée par Jean Puech et qui a permis d'aboutir à ce résultat.
Alors c'est au titre de l'agropastoralisme que ce territoire a été inscrit. Peut-être pour nos auditeurs, vous pouvez rappeler ce qu'est l'agropastoralisme ?
Alors, ce bien a été classé au titre des biens culturels vivants, et non pas pour la beauté des paysages en soi, mais parce qu'ils ont été façonnés par l'agropastoralisme. Alors, l'agropastoralisme, c'est la présence de l'homme et de l'animal sur le territoire, donc une agriculture très présente au cours des siècles qui a façonné ces paysages. Et c'est à ce titre-là que ce bien a été inscrit. Donc c'est la présence de l'homme depuis des siècles sur différentes formes et sur différentes évolutions, puisque les pratiques ont évolué jusqu'à aujourd'hui, mais qui ont par tous les temps façonné ce paysage.
Alors on est un peu chauvin en tant que Lozérien, mais il faut rappeler que ce territoire il s'étend sur 4 départements.
Oui, alors ce territoire s'étend sur 4 départements, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et la Lozère. Et pour la Lozère, c'est quasiment un tiers de son territoire qui est dans cette inscription. Voilà, donc c'est nous, avec l'Aveyron, qui avons la plus grosse partie du territoire inscrit, mais effectivement sur 4 départements.
Ça portait une difficulté au moment de l'inscription que ce territoire se trouve sur un, enfin, soit aussi étendu et soit sur 4 départements, en fin de compte ?
Alors, ça posait problème, oui, pour l'homogénéité du territoire. Et donc le premier périmètre qui avait été proposé en 2009, c'est à Séville, a été un petit peu restreint et réduit, justement pour bien se concentrer sur cette notion d'agropastoralisme et trouver une homogénéité sur ce territoire. Donc ça, c'est vrai que c'est le territoire, je crois, le plus grand au monde qui ait été jamais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vrai que c'est quand même une particularité, qui a été une particularité pour le classement, mais qui est aussi une particularité qu'il faut gérer maintenant.
Alors quand vous dites gérer, c'est-à-dire qu'est-ce que ça amène en termes de labels ? Qu'est-ce que ça amène en termes de public ? Est-ce que, voilà.
Alors, déjà, comme tous les lieux qui ont été inscrits, on en s'est aperçu que ça a amené un public plus nombreux, un attrait touristique supplémentaire. On parle de 30% de plus de fréquentation. Bon, c'est un chiffre indicatif qui est un peu aléatoire en fonction justement de la surface qui est inscrite ici. Mais de toute façon, une fréquentation supplémentaire. Donc il y a cette inscription, puisqu'on parle beaucoup de classement, en fait c'est une inscription du patrimoine mondial, a fait naître beaucoup d'espoir. et aussi quelque impatience, donc on en parlera sûrement tout à l'heure, pour mener des actions, pour profiter de cette inscription le plus rapidement possible, attirer et développer le tourisme.
Et développer les infrastructures peut-être aussi.
Ben oui, ça suppose derrière, voilà, ça suppose derrière un certain nombre de choses. Certes, une communication à mettre en place, et une communication homogène sur tout le territoire pour garder
visible,
la lisibilité,
ouais,
avec une ligne graphique, avec quelque chose. Il ne faut pas se disperser, c'est pour ça que je parlais d'impatience. Certains tentaient de prendre un certain nombre d'initiatives, partant chacun de son côté, mais à la fin, à la sortie, on risquait de manquer de lisibilité, de faire l'effet contraire. Nous avons souhaité coordonner tout ça, c'est pour ça que nous avons d'abord travaillé sur la mise en place de la gouvernance. Voilà, donc, on peut peut-être revenir, si vous le souhaitez, sur cette gouvernance.
Oui, ce que vous avez appelé l'entente, c'est ça ?
Alors, la gouvernance, c'est organisé autour de trois instances différentes, chacune a un rôle. Il y a la conférence territoriale, présidée par le préfet coordonnateur, en l'occurrence le préfet de la Lozère, qui regroupe l'ensemble des collectivités, les chambres consulaires, les organismes en lien avec l'environnement ou la culture, etc. Donc voilà la conférence territoriale. Ensuite, il y a le comité d'orientation, qui est l'ancienne association de préfiguration, dite AVEC, qui s'est transformée en comité d'orientation, avec à l'intérieur un comité scientifique, chargé de faire des propositions, amener un certain nombre d'idées, un peu la réflexion. Pour ce territoire. La conférence territoriale est en charge de valider les orientations et l'entente interdépartementale qui a été décidée comme organe d'exécution, bon, qui peut faire aussi des propositions, mais qui est en charge de mettre sur pied, d'exécuter les orientations, les décisions qui ont été prises par la conférence territoriale. Voilà comment s'articule rapidement ces trois instances qui constituent la gouvernance de l'inscription de ce bien au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et c'est pas trop lourd à gérer, justement, qu'il y ait autant d'instances qui s'occupent de...
Décisionnaires et exécutives.
Alors, ça paraît un peu compliqué, mais nous avons signé une convention pour que les rôles...
Les rôles soient bien répartis.
Ouais. Qui fait quoi et qui dépend de qui ou... Donc, ce que je vous disais, c'est que la conférence, c'est rapide, c'est un résumé rapide, mais valide. Si on va commencer par le début, le comité d'orientation, plutôt le lieu de proposition, de réflexion, où vont remonter un certain nombre.
Donc là, il y a des scientifiques qui interviennent.
Alors, il y a à l'intérieur un comité scientifique, avec des spécialistes qui peuvent guider ou modifier certaines orientations, ou donner aussi des idées. La conférence territoriale valide ce nombre de pistes, et l'entente va prendre à son compte ces orientations. Peut faire aussi des propositions à un moment donné, mais aussi sélectionner un certain nombre de propositions, puisque derrière il s'agit de mettre en place des actions et de les financer.
Ouais. Oui, donc,
voilà. Après, les problèmes d'argent et donc d'aller chercher les financements qui se posent. Donc l'entente, elle a ce rôle sur le territoire et aussi le rôle que lui a confié l'État, c'est-à-dire de faire respecter, par exemple, l'utilisation du label UNESCO.
D'accord. La charte et l'utilisation du label.
Oui, l'utilisation, je dis bien, du label UNESCO, parce que la charte graphique qui a été
élaborée... Celui avec le petit temple, c'est ça, marqué UNESCO.
Alors ça, c'est le petit temple à l'UNESCO, là, qui a une utilisation très réglementée, très encadrée, et l'État est en charge de le faire respecter, mais nous a confié à l'entente ce rôle. Alors, nous allons l'assumer, puisqu'on nous l'a confié, mais je dis bien sur cette partie-là, cette partie UNESCO, puisqu'après, il y a eu une charte graphique qui a été élaborée avec l'AVEC, qui permet à d'autres utilisateurs, avec le CEC, qui permet d'être utilisé plus facilement à d'autres fins que le label UNESCO.
Et en gros, donc, l'entente est financée par qui aujourd'hui ?
Alors l'entente, d'abord, pourquoi l'entente, si vous voulez, c'est qu'on a fait une entente à quatre départements pour aller vite, pour être en capacité de décider, d'exécuter rapidement. C'est plus facile de se mettre d'accord à quatre qu'au travers des syndicats mixtes où on aurait eu les régions, mais aussi les communes, les communautés de communes, donc beaucoup de monde. Il fallait 1,5 à 2 ans pour mettre sur pied. Donc, il semblait que c'était beaucoup trop long. Donc, décider de faire une entente à 4. Bon, ce qui n'exclut pas des évolutions dans le temps. Les financer par les 4 départements qui ont décidé de mettre une enveloppe au fonctionnement, je dis bien au fonctionnement, de 5 000 € chacune pour le fonctionnement de l'entente. Voilà. Le fonctionnement, ça veut dire toute la partie personnelle administratif qui a été recruté, donc 3 personnes aujourd'hui, directeur, une directrice, un chargé de mission, une chargée, puisque ce sont trois femmes, donc une équipe très féminine, et une poste de secrétaire également, qui vient d'être recrutée. Donc trois personnes qui vont siéger à Florac, puisque convenu que le siège de l'entente se trouverait à Florac. D'un commun accord, puisque les quatre départements sont mis d'accord sur Florac. Voilà. Donc financer le fonctionnement de cette équipe, et puis aussi d'autres frais de fonctionnement ou quelques initiatives que nous avons déjà prises, comme de la signalisation sur les principaux axes. Enfin, on reviendra tout à l'heure, si vous le souhaitez, d'accord, sur les différentes décisions déjà de l'entente.
Alors vous parliez de 30% de fréquentation en plus. Après un an et demi, est-ce qu'on peut peut-être tirer un premier bilan de cette inscription ?
Non, je crois que c'est un peu tôt pour mesurer ou quantifier. Bon, déjà, faut-il faire connaître et faire savoir ?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Nous, oui.
Il faut que la population déjà locale soit au courant que...
Nous, on a eu la nouvelle, donc c'est très bien. Les locaux aussi, parce qu'on a quand même un peu communiqué. Mais l'objectif, c'est maintenant de communiquer à l'extérieur, de faire connaître au grand public, national et international. Parce que là, on est sur un public, voire plutôt d'ailleurs, enfin pas plutôt, mais plus que national, voire international, qui se déplace par rapport aux inscriptions, aux biens inscrits. Donc, je crois qu'il faut se donner les moyens de communiquer à ce niveau-là. Donc c'est aussi tout l'objectif de l'entente, de mettre sur pied des moyens de communication pour aller capter ce public. Alors ça va être localement, sous forme de cartes, de signalisation sur les principaux axes, mais je pense qu'il faudra aller au-delà, au travers des médias nationaux, radio, télé, si on veut vraiment être efficace. Donc autant d'actions qu'il faudra mettre sur pied.
C'est sûr que c'est plus compliqué que par exemple sur Albi, où je suis allé là récemment, où ils ont la cathédrale qui est le monument phare. Donc là, c'est facile à repérer de loin, et puis c'est un seul monument. Sur la Lozère, vous en avez repéré combien à peu près de zones ou de sites qui seraient potentiellement labellisés ?
Alors, c'est l'ensemble du bien qui est inscrit. Donc c'est difficile de dire qu'est-ce qui est plus beau.
Mais pour le public,
et pour le public, voilà. Bon, il y aura de toute façon des lieux emblématiques fréquentés, qu'on le veuille ou non, ou si on a une capacité d'accueillir, de faire visiter. Bon, donc il y en a un peu partout sur les quatre départements. C'est vrai que c'est plus facile, en tout cas pour le public, ou de maîtriser l'accueil du public lorsqu'on est sur un monument, un bâtiment historique, cathédrale, château,
une grotte, etc.
Là, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je disais, la particularité de ce bien qui est immense, qui est très vaste, ça va être un peu plus difficile à organiser des produits touristiques, des visites pour le public qu'on va accueillir. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse. D'abord qu'on communique de façon cohérente avec tous les acteurs du territoire, avec une ligne graphique vraiment coordonnée pour que chacun s'y retrouve. Et deuxièmement, pour moi, comment organiser cet accueil de public supplémentaire. Alors accueil, ça veut dire accueil séjour, hébergement, mais aussi activité aux produits touristiques à proposer. Donc c'est tout ça aussi que nous sommes en train de discuter, de travailler avec tous les partenaires. Donc j'entends partenaires les villes-portes, ce qu'on a appelé les villes-portes, c'est-à-dire les principales villes à périphérie du bien.
Guizot, Albi, c'est ça ?
Nous avons Mende, Alès, Ganges, Lodève et Millau, sur les cinq villes-portes à périphérie de ce bien, qui elles sont à capacité d'accueillir, puisque c'est là que se trouve l'essentiel de l'hébergement autour de ce site, même s'il en existe dans le site proprement dit. Donc c'est avec eux que nous avons commencé à travailler, nous sommes rencontrés avec les CDT, les comités départementaux de tourisme pour la communication, puisque ce sont les bras armés des départements, en termes de communication et de promotion, et puis aussi avec les acteurs locaux, c'est-à-dire tous les professionnels du tourisme qui se trouvent à l'intérieur du bien, voilà, que nous allons réunir, rencontrer. Nous faisons des réunions d'information pour dire ce qui s'est passé, mais aussi les écouter, avoir un retour, voir quelles sont leurs attentes, comment ils voient l'avenir, comment ils voient les choses, et comment il faudrait surtout orienter les choses pour être en capacité d'accueillir plus, d'accueillir mieux.
Oui, c'est ça, parce que là, récemment, on avait de la demande de certaines associations qui organisent des événements ou qui organisent de l'accueil, que ce soit en centre de vacances, en chambre d'hôtel, etc., et qui, d'une année sur l'autre, en fait, engagent leur politique touristique de septembre à juin. Mais c'est vrai que le gros du travail se fait quand même sur la première période de l'année, de la saison, c'est-à-dire à la sortie de l'été, de septembre à décembre, parce que c'est là où ils vont vendre leur capacité d'accueil. Alors comment ces gens-là aujourd'hui, ils peuvent s'emparer cette mise en valeur de ce patrimoine, à la fois matériel et immatériel, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent rencontrer l'entente ou en tout cas utiliser les stratégies développées par l'entente.
Déjà, il y a déjà eu pour 2012 une carte touristique qui a été mise sur pied par sous l'égide des quatre comités départementaux du tourisme. Je crois que c'est le Gard qui l'a portée, mais c'était bien en accord avec les quatre DT. C'était une première démarche dans l'urgence, vous l'avez rappelé, pour 2012, puisque le classement c'est juillet 2011 ou juin 2011, donc la saison touristique se prépare bien avant. Première démarche. Maintenant, pour cette saison ou la saison à venir, les champs peuvent utiliser l'emblème dans certaines conditions, mais pas à des fins commerciales, donc ça dépend de ce qu'on parle, mais peuvent communiquer sur le fait que ce bien est inscrit. Alors, certains peuvent proposer aussi des produits touristiques, ont sûrement déjà imaginé des produits touristiques, des circuits, des lieux à visiter.
Oui, c'est ça. Hein.
Voilà. Donc tout ça, déjà, ça n'interdit pas qu'il y ait ces démarches-là de la part des professionnels directement. Mais nous voulons à terme essayer de mieux coordonner tout ça, d'avoir quelque chose de plus élaboré. C'est pour ça que je dis travailler en partenariat avec les villes-portes, avec les professionnels. Mais tout ça, ça prend du temps.
C'est de réaliser potentiellement un catalogue, c'est ça ou...
On peut imaginer à terme qu'il y ait un catalogue ou un support papier qui fasse la promotion
un site, peut-être,
site ouais. comme le CDT le fait sur d'autres activités. Mais ça peut être, aller plus loin après dans la démarche communication via les médias nationaux, sous forme radio, télé, tout ça c'est quelque chose auquel on pense, mais derrière il faut un certain nombre de moyens aussi pour pouvoir le faire, des moyens financiers. Donc ça dépendra des moyens que nous obtiendrons, des financements que nous obtiendrons, pour aller jusque-là, jusqu'à cette démarche. Mais si on veut vraiment être efficace, je suis convaincu qu'il faudra aller jusque-là.
Justement, une petite question comme ça, Candide. Est-ce que l'UNESCO finance une partie? Est-ce qu'il y a un apport financier ou c'est juste un label, une inscription?
Non, l'UNESCO, c'est juste une inscription. L'UNESCO répond à une demande, en l'occurrence la demande de l'État français, qui a demandé, parce que c'est l'État français qui a porté ce dossier. Qui a demandé cette inscription. Donc il répond favorablement, en l'occurrence il a répondu favorablement, avec une seule préconisation, c'est que ce bien, à minima, reste au niveau de celui auquel il a été inscrit, de sa préservation. Alors, on dit que ce n'est pas une contrainte supplémentaire, il n'en rajoute pas effectivement, mais il demande quand même qu'à minima, il soit conservé au niveau où il a été inscrit, voire amélioré, mais au minima. Sinon, à tout moment, cette inscription peut être retirée. D'accord. Et nous allons avoir une première visite d'experts à l'automne 2013 qui vont déjà venir constater ce que nous avons fait, comment est le bien aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous avons mis en place ou qu'est-ce que nous projetons de mettre en place pour le conserver et garder cette inscription.
Donc Marvejol qui ne fait pas partie des...
Alors juste pour compléter, mais derrière, excusez-moi, mais je n'ai pas complètement répondu, il n'y a pas de moyens financiers accordés par l'UNESCO. Voilà, c'est un label avec l'utilisation de son label, qui en soi déjà quelque chose d'important.
Oui, bien sûr, c'est les retombées
et puis l'image.
L'image et les retombées.
Pas de panneau UNESCO devant le Théâtre de la Mauvaise Tête.
Non, on n'a pas demandé le logo.
Est-ce qu'il y a par contre le fait que ce soit inscrit, est-ce qu'il n'y a pas une obligation de, si vous avez répondu, une obligation en fait de conservation particulière.
Oui, parce que c'est limité dans le temps en fait.
À la fois sur le patrimoine, donc ça veut dire aussi des investissements peut-être.
Alors à la fois, c'est à la fois, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est clair, mais avec une obligation quand même de maintien et de préservation. Donc c'est là tout l'enjeu pour nous de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce bien reste inscrit. Et quand on a dit que l'inscription s'était faite à cause et grâce à l'agropastoralisme. Premier objectif, c'est de voir comment maintenir cet agropastoralisme et donc les gens qui vivent de cet agropastoralisme, donc les agriculteurs, les éleveurs
qui vivent de ce territoire. Et les artisans qui est autour.
Oui, mais l'agropastoralisme, ce sont quand même c'est d'abord les agriculteurs, les éleveurs qui façonnent les paysages. Et là, voir comment on peut les maintenir, comment ils peuvent se développer, s'installer. Donc, tout ça, ça fait partie de nos... aujourd'hui, de ce que nous cherchons des mesures qui puissent les conforter, les renforcer. Et que ce soit pour eux, un plus, que ce ne soit pas vécu comme une contrainte supplémentaire. Alors que certains ont eu tendance à penser que, bon, allez, on avait encore mis une nouvelle couche et que derrière, il allait y avoir pour eux des contraintes.
Retour des difficultés. Au bœuf et on arrête les tracteurs.
Voilà, pour essayer de couper court à tout ça, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir leur apporter un plus, voire même un plus financier au travers d'une mesure environnementale de l'Europe, par exemple. Bon, on y a pensé, on va essayer de se battre pour ça. Qui serait pour eux donc la confirmation que c'est vraiment vécu comme un atout et comme un plus. Voilà, et un encouragement à pouvoir se développer et y rester.
Donc vous l'avez bien expliqué, c'est une communication vers le national, voire l'international qui va falloir faire. Mais pour cela, il faut aussi que les habitants du territoire adhèrent à ce projet, aillent d'un même élan. Pour cela, vous mettez en place des réunions. Il y en a une qui s'est tenue la semaine dernière. Donc c'est peut-être un peu tôt pour répondre à ma question, mais est-ce qu'on sait si les habitants de ce territoire adhèrent à ce projet? Est-ce que peut-être par rapport à la première réunion, vous avez senti une adhésion de ces habitants?
Alors bon, on en a fait qu'une encore. Pas beaucoup de monde, mais il y a quand même eu du monde. On sent que les gens, oui, sont quand même intéressés et motivés pour faire quelque chose. Le sentiment que j'ai, c'est que les gens sont vraiment motivés. Ils ont compris que c'était un plus qu'on leur avait apporté et qu'il y avait des choses à faire pour développer et capter ce nouveau public et donc développer le tourisme. Voilà, ça, compris. Alors, en tirer des enseignements aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place ces réunions d'information. Bon, 4 sont prévues ce mois-ci, mais s'il faut, on verra, on en fera d'autres. L'objectif, c'est de faire savoir ce qu'est l'inscription, quels sont nos devoirs, mais aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'écouter, voir qu'est-ce qu'attend le territoire, qu'est-ce qu'attendent les acteurs, et qu'est-ce qu'ils souhaitent qu'on mette en place pour avancer et aller dans le sens où ils souhaitent. Bon, et là, l'entente peut porter ses propositions, enfin, en tout cas sélectionner, mais peut porter un certain nombre de propositions.
Alors justement, peut-être pour terminer cette rubrique sur cette inscription à l'UNESCO, succinctement, quelles actions ont été réalisées? On en a à peu près parlé, et quelles sont surtout les actions à venir?
Je vais peut-être laisser la parole à ma directrice.
Voilà, qu'on n'a pas présenté.
Elle aura l'occasion de s'exprimer comme ça et de vous dire un peu ce que nous avons fait au cours de ces derniers mois.
Voilà, peut-être vous présenter également.
Oui, donc je suis Sandrine Lagloire, je suis chargée de la direction de l'entente qui a été récemment mise en place. Donc l'entente, même si le personnel est arrivé que très récemment, a déjà eu un certain nombre d'actions en 2012. Donc suite à la demande de l'État de gérer l'emblème UNESCO, l'entente a déjà défini les conditions d'utilisation de l'emblème et aide les porteurs de projets qui veulent utiliser cet emblème dans la bonne utilisation. Il y a une réflexion sur la signalétique routière, notamment sur les axes nationaux, qui a été engagée pour mettre des panneaux, notamment sur la 75 et sur les routes nationales 88 et 106. Et donc c'est une action qu'on souhaite voir réaliser d'ici 2013. Ensuite, il y a une préparation pour l'édition du guide vert Michelin pour l'édition 2013, pour parler des Causses et des Cévennes, qui est un site récemment inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu l'organisation en octobre dernier des journées internationales de l'agropastoralisme qui ont été co-organisées par l'IAM à Montpellier, l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier et l'entente interdépartementale pour faire venir un certain nombre de spécialistes de l'agropastoralisme au niveau international. Donc 16 pays ont été représentés au cours de cette journée et donc ont transité sur le territoire pour découvrir de quelle manière était effectué l'agropastoralisme chez nous. Donc ça a suscité beaucoup d'intérêt et une volonté d'échange à l'international sur cette thématique de l'agropastoralisme et des paysages culturels vivants. Comme l'a dit le président, les Causses et les Cévennes sont le bien culturel le plus étendu au monde. Donc on a beaucoup de choses à apporter à des pays qui souhaiteraient vouloir inscrire des paysages culturels vivants sur la liste du patrimoine mondial. Il y a eu les fameuses plaques commémoratives que souhaite l'UNESCO. Pour chaque site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, il y a des plaques commémoratives qui doivent être installées. Donc le territoire étant très étendu, 4 plaques vont être mises en place. Donc une au Mont Lozère, une au Mont Aigoual, une au Cirque de Navacelles et une à l'aire du viaduc de Millau, de façon à montrer en fait le prestige de cette inscription sur le territoire.
Et au bord de l'autoroute aussi, sur la 75 là.
Alors, sur la partie R du viaduc de Millau, par exemple, qui est un site particulièrement fréquenté, Il y aura une scénographie. L'Aveyron a choisi de mettre en place une scénographie spécifique pour expliquer l'agropastoralisme et donner envie aux personnes qui s'arrêtent sur l'aire du viaduc de venir visiter ce territoire et découvrir l'agropastoralisme et les paysages culturels qui y sont liés. L'entente a aussi travaillé sur un certain nombre de décisions importantes pour le territoire. Donc l'entente a pris notamment deux motions récemment, une motion par rapport au loup et indiquant la difficulté de la compatibilité du loup avec l'exercice de l'agropastoralisme et la nécessité d'avoir une réflexion sur cette interaction. Il a pris aussi une motion concernant la politique agricole commune. Au sein de l'entente, nous avons un député qui fait partie d'un groupe parlementaire qui doit travailler sur des propositions dans le cadre de la PAC. Et comme l'a dit le président, l'agropastoralisme est essentiel pour le maintien des paysages sur le territoire. Et donc, il faut pouvoir intervenir à ce niveau-là. Et donc, pour ça, l'entente a mandaté Frédéric Roig, député de l'Hérault et membre de l'entente, pour intervenir dans le cadre de ce groupe parlementaire en faveur du maintien d'un agropastoralisme extensif qui est la clé de voûte du maintien des paysages sur le territoire.
Oui, beaucoup, beaucoup de projets, en effet. Mmh. Peut-être un mot pour terminer sur les réunions, à savoir la prochaine, où elle se déroule et quand.
Alors, donc, la première réunion s'est déroulée à Bar-des-Cévennes le 5 décembre dernier. Ça a permis de prendre un premier contact avec la population. Trois autres réunions vont être réalisées d'ici la fin 2012. Donc, le jeudi 13 décembre à 17h30 à la salle des fêtes de Méruès. Mercredi 19 décembre à 17h30 à la salle polyvalente du pont de Montvert. Le jeudi 20 décembre à 17h30 à la salle des fêtes de Saint-Enémie. Cette série de réunions, en fait, est un début, puisqu'il faut arriver à couvrir l'ensemble du territoire. Et donc, en 2013, un certain nombre de réunions seront encore organisées pour toucher d'autres parties du territoire. Donc là, on a fait un petit peu la partie lausérienne, mais on continuera sur la partie aveyronnaise, gardoise et héraultaise.
Voilà, ces réunions que vous retrouverez dans nos informations locales au jour le jour.
Tout à fait.
Et sinon, concernant l'éducation, vous avez pensé à faire un fascicule ou un petit guide qui serait destiné un petit peu aux scolaires ou...
Alors, l'une des vocations de l'UNESCO est que les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO fassent l'objet, en fait, d'une information, d'une sensibilisation de tous les publics et de toutes les générations, justement pour les inciter à maintenir, être sensibilisés à leur patrimoine et leur donner envie de le maintenir. Donc actuellement, on n'a pas d'action spécifique qui est prévue, mais on souhaite essayer d'engager un travail en fait avec l'inspection académique pour voir dans quelle mesure on pourrait travailler sur des projets éducatifs au sein des écoles. Alors l'UNESCO dispose de maquettes, de mallettes pédagogiques qui sont, je dirais, globales sur le patrimoine mondial. Et à ce moment-là, l'entente pourrait développer des outils plus particuliers sur l'agropastoralisme,
plus spécifiques à notre territoire,
paysage, ouais. Aider les enfants en fait à mieux interpréter le paysage qui les entoure et quelle est l'histoire.
Ouais, parce que ça fait partie du programme des enfants primaires, la lecture de paysages notamment. Voilà. Et ils montent souvent sur le cos ou ils montent souvent sur des espaces comme ça pour avoir plusieurs niveaux de lecture des différents plans de ce qui existe. Donc ça, ce serait vraiment intéressant qu'au niveau scolaire, en tout cas l'inspection académique puisse travailler avec vous sur. Un document.
C'est un projet qu'on a dans les
cartons.
Dans les mois à venir,
mais
dans les cartons, on y pense sérieusement.
D'accord.
Très bien. Oui, je crois que c'est tout à fait important, puisque on a dit tout à l'heure, on souhaite que le territoire s'approprie cette description. Et ça commence bien sûr par les jeunes et par les enfants. Et donc, notre objectif, c'est de cibler tous les publics, mais notamment ce public jeune, et notamment dans les écoles primaires, bien sûr.
D'accord, merci à vous deux. On va peut-être faire une pause musicale. Et bien sûr, vous retrouvez peut-être M. Bourquillet sous une autre casquette du président du Conseil général dans une future émission. C'est Ours qui arrive de suite avec Nina se réveille.
48 FM Le Mag.
Voilà, une chanson un petit peu courte pour laisser la place au TMT pour qu'il puisse parler quand même. Hein ? Bonjour si. Thierry.
Bonjour.
Et nous parler justement, alors c'est un terme qui m'a fait assez rire, j'avouerai, pour parler eh bien, de déambulation peinturlurée.
Voilà, ben, je crois que tout est dit dans le titre. Hein. Non, en fait, c'est la deuxième semaine de Littérataire. C'est un auteur que nous accueillons sur tout le long de la saison. Nous avons déjà eu une première semaine.
Il a fait quelques interventions à l'IMPRO Le Gaillon, je crois.
Oui, alors, il avait déjà travaillé l'année dernière à l'IMPRO Le Gaillon. Et cette semaine, il est présent toute la semaine à l'IMPRO Le Gaillon. Voilà, où il est en train de manger justement avec eux. Lui, il a de la chance, il a le temps. Il mange avec les jeunes, il discute.
Nourriture spirituelle, Thierry, pour toi aujourd'hui.
Exactement, mais ça ne fait pas de mal de temps en temps. Donc il discute avec les jeunes, avec toutes les équipes aussi éducatives. Et tous les matins, il écrit des textes et qu'il restitue donc, sur les ateliers à l'IMPRO Le Gaillon. Ça dure toute la semaine. Et vendredi, on se retrouve à 20h30 devant le TMT pour cette fameuse déambulation peinturlurée où Rémi et Rodolphe Gire, qui est art-thérapeute à l'IMPRO Le Gaillon, mais aussi artiste peintre. On se retrouvera donc devant le TMT pour une petite balade d'une vingtaine de minutes dans Marvejols, où Rodolphe aura placé quelques tableaux et Rémi nous fera des lectures de ses textes qu'il aura écrits au cours de la semaine. Et on terminera, après ces 20 minutes de déambulation nocturne et peut-être un peu frigorifique, on terminera au chaud dans la salle du TMT pour terminer d'écouter l'écriture de Rémi. Et Rodolphe qui réalise tout au long de la semaine une fresque assez grande et qui sera présentée au public donc dans la salle du TMT.
Alors ce n'est pas une manifestation, je pourrais dire, qui tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est tout un projet que vous avez intitulé « Littérataire ». Expliquez-nous un peu ce projet. Donc, il y a une première soirée le 26 octobre, il y a une autre soirée ce vendredi et ça va continuer. C'est quoi le principe de ce projet ?
Alors, on avait travaillé l'année dernière avec Rémi Cecetto sur un autre projet autour de la poésie. Et Rémi, qui est un auteur dramatique et aussi poète, a beaucoup apprécié Marvejols et ses environs, enfin, le territoire. Et il a eu envie de revenir et il nous a proposé de venir à peu près donc 5 semaines en résidence et de travailler sur le territoire en rencontrant des gens. Alors on a reparlé tout à l'heure de l'IMPRO Le Gaillon. Il interviendra aussi avec le lycée agricole. Il interviendra avec des personnes qu'on a choisies qui ont un rapport au territoire, à la nature, des randonneurs, l'association Alep, un bûcheron, un agriculteur qui fait du fromage de brebis.
Tu ferais pas dans l'agro-pastoralisme ?
Voilà, c'est en fait...
on va demander l'inscription du TMT.
Voilà, au patrimoine de l'UNESCO et de récupérer les petits logos.
La tome de la mauvaise...
Tête,
ouais. Il faut regarder, il y a peut-être quelque chose.
Il y a peut-être un truc à peinturlurer, là, peut-être.
Exactement. Et la première semaine, il est intervenu avec les services techniques de la ville de Marvejols. Voilà, donc c'est à chaque fois avec des partenaires différents pour s'imprégner de des gens qu'il rencontre et en même temps de la relation au territoire, à la terre. Voilà, et c'est une écriture très poétique et qui donnera, à la fin des 5 semaines de résidence, une publication sous forme de recueil poétique.
Il sort d'où, Rémi Cecetto ?
Rémi Cecetto...
C'est un nom basque, ça, non ?
Vient d'Angers, non, italien. Ses origines sont italiennes, ouais, du côté de son
comme
papa.
Comme chorizo, Cecetto.
Cecetto.
Ouais, chorizo, c'est espagnol.
C'est espagnol.
C'est pas grave. Quoi.
Vous êtes plus détendu que quand il y avait M. Pourquier, je trouve.
Le sujet s'y prête, c'est peut-être
voilà,
pour
c'est
ça.
Voilà, vous dites c'est des bêtises et du coup,
marrant,
je ne sais
toi.
Plus. T'as d'origine marrant. Italienne, ouais, effectivement. Et il vit à Villeneuve-les-Avignons.
D'accord.
Il ok. A... Voilà,
qu'est-ce qu'il a écrit comme autre texte très connu en France ?
Très connu. Alors là, je ne t'en citerai pas, mais connu d'un certain milieu. Il y a pas mal de textes. Là, il est en train d'écrire Que moi pour un artiste qui s'appelle Jean-Marc Bourg. Il a écrit aussi plein de recueils de poésie, plus d'autres titres, mais beaucoup, beaucoup d'écriture. Je te sortirai pas comme ça les titres là. Mais voilà. C'est un auteur qui est beaucoup plus connu dans le domaine de la poésie et qui rentre petit à petit maintenant dans le domaine du théâtre.
Du théâtre, du spectacle.
Ouais, du spectacle. voilà, il y a deux créations sur la région l'année prochaine.
Voilà pour cette rubrique, c'est bon. Si on parlait d'agropastoralisme,
alors on revient à l'UNESCO.
On va te classer à l'UNESCO. Oui, Thierry va rajouter sur la liste, s'il vous plaît. Thierry Arnald.
J'ai cueilli les danses bretonnes qui ont été aussi.
En tout cas, peut-être que le spectacle vivant sera peut-être amené à être mis en valeur autour de cet agropastoralisme. En tout cas, ça pourrait être l'objet, en tout cas, d'une valorisation.
Oui, mais il n'y a pas de soutien financier de l'UNESCO, alors Thierry, on ne
l'ira pas. Par contre, l'entente...
L'entente, a priori, ils ont...
Ils ont mis des moyens un petit peu, c'est bien. C'est bien.
Non, c'est super, ça, je crois, pour le département, enfin, pour les départements.
Oui, pour les quatre départements.
Mais comme on disait hors micro, ça serait bien aussi de communiquer sur le département, parce que j'ai l'impression que moi, la population, peut-être plus Nord-Lozère ou Marvejols, du fait qu'on ne soit pas dans le territoire, mais ça serait bien que nous, déjà, on soit au courant pour pouvoir en parler justement à l'extérieur, aux gens qu'on rencontre, qu'on accueille.
Donc ton prochain spectacle, c'est sur la bête du Gévaudan ?
On va essayer, oui, de voir si elle n'est pas passée sur l'Écosse.
Il nous prend sérieux, hein, il continue à parler de l'UNESCO.
Tout à fait, moi, je trouve ça très intéressant.
Non, mais moi, je préférais parler un peu du TMT. Faire peut-être un premier bilan de cette nouvelle saison. Est-ce que les salles sont combles pour les spectacles proposés depuis ce mois de septembre ?
Ah ben, je vais être honnête, non, elles ne sont pas combles. Non, il y a eu quelques soirées qui étaient... ouais, de temps en temps. Ouais. Qui ont été plus calmes que ce qu'on avait imaginé ou prévu, et même sur des spectacles, entre guillemets, plus...
Oui, plus grand public.
Plus tout public, ouais. Ouais. Alors, on réfléchit, est-ce que c'est la programmation, est-ce que c'est les dates, est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est le climat, la crise...
Est-ce que c'est la production pléthorique amende qui fait que...
Alors, maintenant, je vais demander à Nicolas d'être honnête, est-ce que lui a rempli les salles à amende ? Mais peut-être que oui, hein, c'est fort possible.
Bah nous, on va dire que ce début, cette fin d'année 2012 est très rempli. S'en félicite.
Super.
On a un public qui vient beaucoup de Marvejols.
Ok, bon, je reviendrai plus à 48 FM.
Non, en fait, un public qui vient d'un peu partout. Bon, on a beaucoup de Mandois qui sortent énormément. Je crois que c'était pour nous aussi une réponse à la crise. Alors là, c'est plutôt ma casquette culture ville de Mende, mais on avait essayé de faire une programmation qui n'a pas été que grand public, hein. Même si cette fin d'année est quand même beaucoup sur l'humour, ouais, on a beaucoup de monde. Je crois que les gens ont besoin de souffler, de sortir, d'aller voir des choses qui les émerveillent, qui les font rire, qui les détendent, qui les amènent sur d'autres univers. Et le spectacle vivant répond vraiment très très bien à ça. Ce que la télé ne fait plus, ce que, à part la radio, qui peut nous amener dans le monde de l'imagination. À part ça, c'est vrai que voilà, la société est quand même assez triste, assez morose aujourd'hui. Et alors, pourquoi Marvejols, peut-être ça a peut-être moins répondu. Peut-être parce que vous êtes sorti aussi peut-être un petit peu de ce que vous faisiez d'habitude et que ça prend un peu de temps pour trouver les publics, ou peut-être aussi un problème de calendrier, tout simplement.
Oui, il y a sûrement plusieurs explications, plusieurs facteurs, hein, c'est sûr. Bon, je pense que les gens savent ce qu'ils viennent voir à Marvejols et quel type de public, enfin, tel type de spectacle, pardon, va être proposé au public. Mais bon, je dis ça, je ne suis pas catastrophé non plus. Hein. Il y a eu du monde. Hein,
Il a fini son échauffement. Il est là.
Ah voilà, parce que je commençais à me poser des questions. S'il fallait que je parle foot, j'étais mal. Donc, je suis heureux de pouvoir venir. Voilà. Non, plusieurs facteurs. On fera le point à la fin de la saison aussi. Et c'est vrai que...
On ne peut pas tirer un bilan d'une saison au bout de deux mois.
Et puis en plus, il y a eu des spectacles qui ont très très bien marché.
Oui, je crois que tu es un peu pessimiste là, Thierry.
Non, pas du tout. C'est parce que je vois la déco de 48 FM. Là, il y a une superbe guirlande.
Ouais, ouais.
Je ne sais pas qui c'est qui a fait la déco. Si c'est Ludovic ou Nicolas.
C'est Guillaume.
Ah, c'est Guillaume. Guillaume, heureusement que tu n'es pas là. Non, vraiment chouette. Cette guirlande posée comme ça.
Et en plus, tu as vu qu'on t'a mis
une petite papillote.
Une petite papillote.
C'est sympathique ça.
Est-ce que justement dans le cadre de Noël, vous avez programmé des animations, des spectacles spécifiques à cette période-là ?
Pimpin et Rikiki ou t'es de la mauvaise tête ?
Non, pas du tout. Non, on n'a pas fêté Noël pour le moment. On termine, nous, avec Littérataire, donc vendredi soir. Voilà, avec la déambulation dans Marvejols. Et comme ça, on pourra regarder les décos de Marvejols. Voilà, en se baladant. Non, oui. Pas de spectacle proprement lié à cette période-là. De toute manière, Mende avait tout piqué, les spectacles d'humour, là, donc il ne restait rien sur le marché.
Voilà. Et ouais,
on ne peut pas lutter avec les moyens de la ville de Mende, on ne peut pas.
La nuit de l'humour, ça avait été mise en place par Marvejol au départ, non ?
Ben oui, ils ont piqué l'idée.
Ils ont piqué l'idée. Hein.
Ouais, ouais, bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Oui, oui, on avait démarré. Puis on avait...
Il ne dira rien. Nous avons lancé ce week-end, dans le cadre de Emlyr, la première soirée cabaret sur Mende.
Ouais.
Qui a très 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 bien marché.
Bon.
Et donc nous envisageons de continuer peut-être cette idée-là, petite forme là, décentralisée par rapport au lieu de spectacle de la ville. Voilà, on a quasiment refusé du monde, donc c'était bien.
Super. D'ailleurs, je tiens à dire que Nico, au passage, pendant que ce cabaret se tenait, il était au stade de foot pour voir la FL. Il n'a pas du tout vu ce spectacle.
D'accord.
Je l'ai vu parce que moi, je les vois avant les spectacles.
Ah,
voilà. J'ai vu à Chalon ce spectacle. C'est pour ça qu'on l'a programmé et qu'il a fait un carton.
Bah super. Ouais. Bah, ça veut dire que tu avais fait un bon choix.
J'avais fait un choix adapté, oui. On avait fait parce que je suis pas seul, mais c'est un peu ce que tu fais aussi, je dirais. Je crois que ce qui fait la particularité de nos programmations, c'est que nous, on va voir, on les vit et on se dit, ça, c'est un spectacle qui peut fonctionner chez nous. C'est un spectacle pour lequel il y a un public. C'est un spectacle qui s'inscrit dans notre ligne artistique, comme on dit dans le jargon. Et c'est ce qui fait après la richesse et puis la cohérence des programmations que vous faites depuis quelques années.
Hein, bien sûr, oui, c'est le principe. C'est-à-dire c'est que voilà, il faut absolument avoir vu les spectacles et réfléchi sur la construction de la saison. Oui, ouais, bien sûr.
Peut-être rappeler le rendez-vous de ce vendredi.
Donc vendredi, rendez-vous à 20h30 devant la salle du TMT, et donc pour cette petite balade. Et alors j'ai oublié de dire tout à l'heure que quand on revient dans la salle, il y aura du thé, du vin chaud à volonté. Et puis si Nicolas a le temps de nous faire un petit gâteau, je viendrai le récupérer à Mende pour l'amener vendredi.
Ouais, la commande est passée, je t'ai fait ton gâteau, pas de problème. En tout cas, on vous souhaite un très bon moment. On soutient ces initiatives culturelles. Il faut aller au spectacle vivant. D'abord, c'est une grande richesse, c'est des grands moments. On en repart habité, on en repart nourri. En plus, là, c'est vraiment super. C'est comme disait Gide, les nourritures terrestres. Hein. Ça en fait partie, la culture. Et, voilà. Et on ne peut pas opposer le sport et la culture. On peut tout aimer. Ce qui nous permet de faire la prochaine transition.
Voilà la transition. On va parler de sport, bien sûr, avec Stéphane Sora, l'entraîneur de l'AFL. Bonjour Stéphane, qui vient d'arriver. Et on va faire quand même une pause musicale, le temps non pas de boire du vin chaud, mais d'écouter un peu de musique avec un groupe qui s'appelle Zero Seven.
Now we're gonna be
48 FM Le Mag.
Voilà, merci Nico de lever le potentiomètre pour que je puisse parler. Donc une page sport maintenant, bien évidemment pour évoquer le parcours exceptionnel de l'équipe de l'Avenir Foot Lozère en championnat et bien évidemment en Coupe de France. Alors c'est l'actualité du jour, hier à 19h le tirage au sort de ce 32e de finale de Coupe de France qui a réservé alors Arles-Avignon, un club de Ligue 2, on attendait un club du Ligue 1 mais bon c'est quand même un club professionnel, Stéphane Sora. Arles-Avignon, c'est bien?
Je crois que ça sera quand même exceptionnel pour Mende, même si c'est vrai que la plupart du monde espérait un club de Ligue 1. Ça ne sera pas le cas, peut-être pour la prochaine fois, on ne sait jamais.
PSG, quoi.
Voilà, par exemple, c'était mon rêve, donc il faudra bien que ça arrive. Hein. Ouais. Non, mais plus sérieusement, je crois que ça va être exceptionnel pour Mende. Ça n'a pas dû arriver souvent de pouvoir recevoir un club de Ligue 2 dans cette compétition qu'est la Coupe de France. Donc je crois que ça va encore réserver de sacrés moments au stade Jean-Jacques Delmas début janvier.
Alors Arles-Avignon, le destin vous poursuit?
Oui, alors personnellement, c'est quoi la petite histoire? Personnellement, c'est un peu un clin d'œil du destin, puisque en tant que joueur, déjà j'ai passé 5 ans à Arles, 5 ans formidables, qui m'ont permis de faire deux accessions avec ce club. Une fois de CFA2 en CFA, une autre fois l'année d'après de CFA en National. Et puis j'ai aussi eu la chance de jouer un 32e de finale, je devais avoir une vingtaine d'années, alors ça remonte un peu maintenant, hein. Mais une vingtaine d'années, et donc on avait joué le club d'Ajaccio qui était en Ligue 2, nous on était en CFA2. Et donc voilà, donc j'avais joué mon premier 32e de finale. Et j'en ai joué un second en tant que joueur quand je suis arrivé à Mende. C'était le fameux match d'Angoulême. Et voilà, et le clin d'œil de l'histoire, c'est que mon troisième match, et cette fois-ci en tant qu'entraîneur, va opposer ces deux clubs. Donc voilà, c'est assez drôle. Ouais.
La boucle est bouclée, on peut arrêter là? Ou on continue en 16e?
Ben non, j'aimerais que ça continue. Ça serait encore plus fantastique, formidable. Pourquoi pas, hein, c'est le charme de cette Coupe de France, de bousculer la hiérarchie, de créer des surprises, et je crois que c'est ce que les gens aiment.
Donc, oui, parce qu'il reste pas mal de petits clubs encore en lice.
Quelques petits, on fait partie.
Il y a le petit Poussé, c'est pas nous, mais je crois que
c'est Savigneux-Montbrison dans la Loire, qui est juste une division dessous de nous. Autrement, on est le deuxième club plus petit. Donc c'est sûr que si on venait à passer, je pense que cette fois-ci, on serait vraiment le plus petit, et ça serait mérité. Voilà, mais bon, on a encore. Quelques jours, quelques semaines avant de se projeter sur ce match-là. On a déjà un championnat qui va nous rattraper là ce week-end. Et puis, on aura le temps de penser à tout ça pendant les fêtes et bien se préparer.
Alors, justement, en championnat, l'équipe est toujours invaincue. Un parcours exceptionnel en Coupe de France. Cette équipe, elle doit commencer à vous surprendre quand même.
Ben oui, c'est ce que j'ai dit après le match samedi. C'est vrai que pourtant, je connais bien mes joueurs. Je connais très bien ce groupe. Je loue à chaque fois que je le peux leur état d'esprit. Mais c'est vrai que là, notamment sur les matchs de Coupe de France, où il faut arriver à se sublimer, à arriver à élever son niveau, je crois que là, oui, sur certains matchs, et certains moments du match même, ils m'ont surpris. Et ben, je souhaite qu'ils me surprennent encore bien longtemps.
Quels sont les points forts de cette équipe pour vous ?
Son état d'esprit. Je crois qu'avant de parler des joueurs individuellement, je crois que ce qui caractérise vraiment ce groupe-là, c'est son état d'esprit. Je l'avais déjà salué en fin de saison dernière, sur la deuxième partie de la saison dernière.
Une équipe au grand cœur, c'est ça ?
Au grand cœur, une équipe solidaire, une équipe qui a des valeurs, qui sait respecter le cadre qu'on lui donne, qui sait s'engager, s'investir dans tout ce qu'on lui propose. Qui est à l'écoute. Moi, c'est un très très grand plaisir à chaque entraînement, chaque week-end, de se retrouver et de bosser avec eux. Je me retrouve un peu dans cette équipe-là. Je trouve qu'on commence à construire quelque chose ensemble. Comme je l'ai dit, pour moi, la Coupe de France, ce n'est pas une finalité. C'est une étape. Ce groupe est jeune et perfectible. Au-delà de l'état d'esprit, il y a aussi beaucoup de qualité dans ce groupe-là. Donc voilà, c'est ce qui donne cette recette un peu magique et qui nous fait, pour l'instant, gagner des matchs. Mais il faut quand même se rendre compte que tout ça est fragile et que voilà, il faut que les garçons gardent cet état d'esprit, aient envie d'avancer, envie de faire des efforts, envie d'aller plus loin.
Je crois que c'est ça, c'est un challenge à chaque fois, c'est une concentration, c'est un dépassement de soi, mais bon, c'est pas spécifique au foot, c'est vrai, dans beaucoup d'autres sports, c'est celui qui a le plus envie de gagner, finalement, qui gagne. C'est un petit peu ça, la Coupe de France.
Le plus envie de gagner, ça c'est sûr, l'état d'esprit. Une équipe en Coupe de France qui fait un parcours, c'est jamais le hasard. C'est jamais le hasard, c'est jamais... Alors oui, il faut avoir la réussite, hein, c'est sûr, mais c'est jamais le hasard. Je le redis, moi, de par ma petite expérience, les fois où ça nous est arrivé, c'était toujours avec des groupes particuliers, des groupes où il se passait vraiment quelque chose, qui avait des valeurs, qui avait une âme, qui avait... voilà, ça allait même au-delà du terrain, au-delà du sport, je serais tenté de dire. Et c'est d'ailleurs ce qui reste après. Il reste des choses qui se sont passées entre nous, dans le groupe, voilà, bien au-delà de buts qu'on a marqués ou qu'on a loupés.
On a passe, des photos, voilà. Oui. De l'après.
Non.
et tu as totalement raison, il faut qu'il y ait une âme, une solidarité, ça c'est obligatoire pour réussir ce que vous réussissez. Mais également, il faut dire, moi pour avoir compté les deux derniers matchs, on voit quand même que vous avez une défense qui est solide avec la charnière centrale de Freitas Almeyres qui est vraiment solide, vous êtes opportuniste en attaque. Gourma, je ne sais pas s'il fait sa meilleure saison, mais il est quand même partout. Au-delà de tout ce groupe, vous êtes quand même une équipe dure à manier.
L'état d'esprit dont on parle, c'est une base, mais ne suffirait pas à lui seul. Bien sûr, il faut des qualités. Il faut des qualités collectives, mais il faut des qualités également individuelles. Et tu l'as souligné, mais bon, moi, il m'est assez difficile de sortir tel ou tel élément du groupe. Tant cet ensemble fonctionne bien,
ouais,
chacun
joue
sa
partition.
Homogène,
hein, c'est ça.
C'est homogène. Ce qui, moi, me fait plaisir, c'est que, notamment sur la Coupe de France, où on a rencontré 5 clubs au-dessus de nous, 3 DH, une CFA2 et une nationale, à chaque fois, notre victoire n'était pas usurpée. À chaque fois, les adversaires nous ont rendu hommage sur le jeu pratiqué. Donc ça, je crois que c'est une vraie satisfaction, et ça ne doit pas être une fin en soi. C'est ce qui doit nous donner envie de voir encore un peu plus loin et en Coupe de France, oui, pourquoi pas, mais surtout en championnat, vraiment surtout en championnat.
Oui, parce que l'objectif, c'est aussi de changer de catégorie l'année prochaine.
C'est pas aussi l'objectif, c'est surtout l'objectif. C'est l'objectif numéro un. Ce championnat-là est beaucoup moins vendeur. C'est sûr que quand notre aventure en Coupe de France va s'arrêter, ben, il y aura certainement un peu moins de monde au chapitre. Néanmoins, je pense que des gens reviendront parce que des gens se sont fait plaisir, ont vu hein, les qualités de ce groupe-là. Donc je pense qu'ils reviendront en championnat. Mais oui, ça sera moins vendeur. Mais je crois que pour que le club grandisse, c'est très important de continuer à jouer les premiers rôles dans ce championnat, de passer un cap. Et puis j'espère pouvoir en passer d'autres dans les années à venir.
En championnat, c'est les combien qui montent? C'est les 3 premiers, c'est ça?
Non, alors le premier monte directement à coup sûr sur les 2 groupes de DHR. Et il se peut... certaines années, ça se passe comme ça, que le meilleur second monte. C'était le cas l'année dernière.
À cause des réserves de professionnels, non?
Voilà, donc c'est un règlement un peu compliqué qui dépend des descentes de CFA, de CFA2, de DH, etc.
Et là, on a combien d'avance sur le second?
On a 4 points sur le second.
Ah, donc c'est pas encore gagné?
Ah non, c'est absolument pas gagné, même si on fait un très bon début
second,
de saison. C'est l'équipe de Balaruc qu'on jouera justement au mois de janvier. Alors, ça me permet de parler de ce mois de janvier. On va le commencer avec la Coupe de France. Pardon. Mais il faut le savoir qu'on va continuer ce mois-là avec la réception de Balaruc, qui est second. On va se déplacer à Uzès, qui est troisième. Et ensuite, on va recevoir Montpellier Atlas, qui est quatrième. Donc vous voyez un peu le mois de janvier.
Gros mois, ouais. Balaruc les Bains, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc, on va faire attention à la galette, alors, ouais, en janvier.
Il n'y a pas de trêve à Noël, alors. Entraînement.
Eh ben non, on va s'entraîner tous les jours entre Noël et le jour de l'an. Non, si les joueurs entendent ça, ils vont je plaisante.
Vous avez entendu, les gars?
On va s'arrêter pendant Noël et le jour de l'an. On est en train de caler un match de Coupe de Région la semaine prochaine, qu'on jouera peut-être en semaine d'ailleurs, pour éviter d'avoir des matchs à répétition au mois de janvier, des matchs en semaine. Donc on va essayer de le jouer la semaine prochaine et ensuite on s'arrêtera pour reprendre le 2 janvier, le mercredi 2 janvier. Donc bien sûr, les joueurs ont grandement mérité une période de repos.
Je voulais savoir, est-ce que ça motiverait les joueurs si Nicolas promettait de se faire une crête si vous passiez le prochain tour ?
J'ai pas l'impression, donc ça les...
Si, si, moi je pense que ça
les ferait marrer.
J'allais le dire, je sais pas si ça les motiverait, mais en tout cas, je pense que ça les ferait marrer. Ouais.
Donc, voilà, je pense que Nicolas, c'est bon, ça peut...
On peut envisager. Je m'appelle pas Dominique.
C'est noté.
Ouais, mais bon, Nicolas, je m'appelle Nicolas, quoi.
Peut-être qu'il y en a un dans le groupe, ça ferait moins rire, et c'est Maël, si on rigole de son père, attention.
Oui, vas-y Nico.
En tout cas, je trouve ce qui est vraiment important aussi, c'est de dire que une équipe, elle est portée. Ah ben, elle est portée par les coachs, le groupe qui est derrière, parce qu'il y a aussi des gens qui quand même préparent physiquement, qui mentalement encouragent les joueurs. Il y a l'entraîneur, puis il y a tout ce staff derrière qui est là avec le président, avec les bénévoles. Quand on a vu déneiger quand même le samedi matin, parce que c'était pas gagné, il faut le dire, pour que ce match ait lieu. Ils ont bossé quand même 5-6 heures d'affilée pour arriver à ce que le stade soit nickel, quoi. Et ça, on peut leur remercier.
Tu as entièrement raison, Nicolas, et je pense que c'est très important de le souligner. Je crois que samedi, ça a été la victoire de tout un club, pas seulement celle des joueurs. Ça a commencé le matin à 8 heures avec les employés de la Comcom qui ont déblayé le terrain avec l'aide d'au moins une trentaine ou une quarantaine de dirigeants. Et je crois que sans ce travail-là, le match déjà n'aurait pas eu lieu, ça c'est très clair. Et ensuite, il faut savoir que l'organisation d'un match comme ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de gens qui œuvrent de personnes qui œuvrent pour l'organisation d'un tel événement.
Et qui n'ont pas beaucoup vu le match en plus. Parce que...
Certains qui n'ont pas beaucoup vu le match, tu as entièrement raison. Donc c'est vrai qu'il faut les saluer et rendre hommage à leur travail. Je crois qu'un club, c'est l'addition de plusieurs compétences, de plusieurs personnes qui acceptent d'œuvrer chacun dans sa partie pour le bien du club. Et je crois que la réussite de samedi, c'est la réussite de tout un club. Alors, je serais presque tenté de dire de toute une ville, parce qu'on a été aussi beaucoup soutenu par pas mal de public. Avec
le
sénateur maire de Mende.
Qui attendait hier soir, à la fin du conseil municipal, le tirage au sort avec impatience et qui commentait et qui espérait. Et donc c'est vrai que c'est porteur en tout cas.
C'est très porteur et pour nous, c'est exceptionnel de pouvoir compter sur un supporter numéro 1 comme lui. Vraiment.
Qui a d'ailleurs dit, bon, mais c'est pas une Ligue 1, c'est une Ligue 2, alors il va falloir passer.
il nous met la pression une fois de plus, hein. Mais bon, moi il me dit ça depuis le troisième tour. Hein.
Bah, lui, il s'est raté pour la crête. Hein. Ouais. Ouais. On va trouver autre chose.
Les barésies.
5 divisions.
C'est toi qui vois. Moi, je ne connais pas.
5 divisions d'écart avec Arles-Avignon. Donc, on en parlait tout à l'heure pendant la pause musicale. Des noms quand même dans cette équipe d'Arles. Un international belge, Pironi, qui a joué à Auxerre, Rocky, qui a joué au PSG et qui a joué aussi à Ajaccio. Donc, ça va être quand même un beau match. Une belle affiche.
Ludovic Butel également dans les buts, qui a plusieurs matchs de Ligue 1 à son actif.
Et qui joue à Valence aussi.
Et d'autres également. Donc oui, c'est vraiment une très très belle affiche. Ça ne sera pas simple. C'est une équipe, c'est vrai, qui a quelques difficultés dans ce championnat, puisque aujourd'hui elle est relégable. Elle va d'ailleurs jouer 3 matchs là d'ici la trêve. Je crois qu'ils jouent ce soir à Guingamp. Puis ensuite, ils vont recevoir 2 fois, une fois contre Dijon, une fois contre Tours, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même qui a son esprit tourné aujourd'hui sur le championnat pour se maintenir en Ligue 2. Il faut quand même savoir que ce club-là, l'année dernière, était en Ligue 1. Ils avaient pas mal souffert, mais bon, ils étaient quand même en Ligue 1. Donc voilà, une belle affiche sur Mende. Et puis je crois qu'une fois de plus, on aura tout à gagner, rien à perdre. Et on fera le maximum pour, pourquoi pas, créer. Alors là, je ne sais plus, ce n'est pas un exploit. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus, je ne sais pas.
Alors là, on trouvera un superlatif.
En tout cas, on souhaite que la ville continue, que les Lozériens aussi, parce que c'est pas l'AFL, hein, ça ne porte pas le nom de Mende à l'intérieur. Donc l'AFL, c'est un regroupement de joueurs, de gens qui participent à tout ça. On a été très, très écoutés sur 48FM. On remercie ces éditeurs qui ont suivi nos commentaires pendant plus d'une heure et demie avec Men, avec Ludo qui était là.
Et Laurent Julien.
Et Laurent Julien qui ont fait un super boulot de commentaires, que même il paraît que Canal était jaloux.
Ah. Donc, d'ailleurs, les commentaires sont disponibles sur notre site internet 48fm.org. Voilà, on écoute en podcast.
Très drôle, un très beau boulot réalisé.
Du Gary et Paganelli, donc à bien se dire.
Et donc, c'est, voilà, c'est, C'est à savoir que ceux qui ne pourront pas se déplacer, en tout cas le 6, puisque vous allez jouer le 6, je crois.
C'est le 6.
A priori, on devrait jouer le dimanche après-midi. Bon, nos dirigeants sont en discussion avec les dirigeants d'Arles-Avignon, mais je pense que le match se jouera le dimanche après-midi. Oui.
D'accord. Donc le 6, rendez-vous au stade. Hein, nombreux, les Lozériens en général, et les Mandois en particulier, avec beaucoup d'engouement pour soutenir cette superbe équipe qui nous fait tous rêver.
Bien, merci beaucoup. J'espère qu'on sera à nouveau énormément soutenus et qu'ils viendront faire beaucoup, beaucoup de bruit dans les travées du stade Jean-Jacques Delmas. J'en profite encore un peu pour remercier également l'école de foot sous la houlette de Sébastien Surivet, qui a fait un boulot formidable avec l'école de foot, leur apprendre des chansons, les maquiller, etc. C'était très, très sympathique de sentir ces jeunes-là derrière l'équipe.
Avant de finir, le prochain match de championnat, tu nous le rappelles ?
Le prochain match de championnat, donc, ça sera dimanche à 15h à Saint-Privat, à côté d'Alès. Voilà, une équipe qui vient de monter dans ce championnat, qui est difficile à manœuvrer chez elle. Et voilà, j'espère qu'on arrivera bien à clôturer l'année 2012 sur ce match-là.
Et Ballaruc-les-Bains, c'est bon pour les cures thermales, mais c'est pas des équipes de foot, ça.
Ballaruc-les-Bains, ils s'accrochent. Tout le monde parle de notre début de saison, mais je peux vous dire qu'eux, ils sont juste derrière nous. Ils n'ont pas perdu un match non plus. Ils ont fait quelques matchs nuls. Mais ça serait une équipe difficile à manœuvrer.
D'accord, ben merci beaucoup Stéphane, merci Thierry également d'être resté là.
Avec plaisir, parce que c'était hyper intéressant. Et, comme quoi, voilà,
et merci à Jean-Paul Pourquier qui a dû partir pour des obligations professionnelles, qui était là tout à l'heure. A noter que la semaine prochaine, ce sera le dernier épisode du MAG de 48FM pour l'année 2012, vu qu'après les deux mardis sont fériés. Et ce sera un MAG spécial Noël afin que vous puissiez réussir vos fêtes de fin d'année. Il y aura du vin chaud au studio. Ouais, du vin chaud, des papillotes. Donc, si vous voulez passer nous voir, mardi prochain, midi et demi, 13h30.
Et puis, vraiment, la déco, c'est impressionnant. Hein. Il y a deux c'est guirlandes. Bon. Il faut venir, faut se déplacer pour ça.
Avec du goût.
Merci à tous. À la semaine prochaine.